Laurent Valero, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le programmateur des Nuits de Nacre. Les Nuits de Nacre auront lieu ce week-end, à partir de ce vendredi 25 juin et jusqu'au dimanche 27 juin. Ça se passera évidemment à Tulle. Il n'y a pas eu de Nuits de Nacre en 2020. Si jamais on l'avait oublié, c'est quoi les Nuits de Nacre ?
Alors, les Nuits de Nacre, c'est un festival qui a maintenant 33 ans, ce qui est un bel âge déjà pour un festival, et dont le fil conducteur est l'accordéon. C'est un festival consacré à cet instrument. Et quand on dit un festival d'accordéon, bah, ça veut dire beaucoup de diversité, parce que cet instrument est très divers, très varié. Il y a beaucoup de styles d'accordéon, beaucoup d'accordéons, beaucoup de modèles d'accordéon, beaucoup de techniques d'accordéon. Et l'accordéon est un instrument dans tous les pays du monde quasiment. Alors, c'est un instrument jeune qui a un peu plus de 100 ans, mais c'est un instrument qui a une très belle histoire et contrairement à ce qu'on pense, qui est présent dans beaucoup de musique, c'est-à-dire de la musique traditionnelle dans des continents où on n'imagine pas, comme en Afrique, en Asie, et dans la musique contemporaine, dans la musique classique également, et dans la chanson, bien sûr, dans le jazz, on le sait bien maintenant, dans le rock, il a été présent et il continue de l'être. Voilà, c'est un instrument qui brasse énormément de styles musicaux et les Nuits de Nacre, depuis sa création, se veut l'ambassadeur comme ça d'un accordéon très multiple, très métèque et très, voilà, très divers, avec les différents instruments de la famille de l'accordéon, c'est-à-dire le bandoneon, l'harmonica, l'accordéon diatonique, l'accordéon chromatique, l'accordéon cajun, l'accordéon, enfin, il y a toutes sortes de systèmes d'accordéons, et voilà, autant d'accordéons que d'accordéonistes, et bon, voilà, on essaye de, moi j'ai essayé, arrivant dans cette édition, effectivement, qui vient dans un moment très particulier, après la crise sanitaire qui fait que les musiciens n'ont pas joué, que les festivals n'ont pas eu lieu, vous le disiez, il n'a pas eu lieu l'année dernière, et donc ça crée un contexte très particulier pour ce nouveau souffle, puisque c'est le titre de ce festival, le nouveau souffle, et oui, parce que ce sont des retrouvailles des musiciens avec la scène, du public avec les musiciens, et des Nuits de Nacre, voilà, 33 ans à Tulle, qui est une terre d'accordéon, on connaît bon, l'usine Beaujin, et c'est une terre, la Corrèze, le Limousin en général, vraiment de tradition d'accordéon. Donc voilà, c'est un festival qui j'espère, va prendre son envol. Voilà, un nouvel envol, mais qui est déjà bien ancré, en fait, dans la tradition.
Jean-Bernard Servière, le président de la Cité de l'Accordéon, a écrit un édito qu'on trouve en tout début du programme de l'édition 2021 des Nuits de Nacre. Dans cet édito, il a la phrase suivante, je cite, « Nous n'avons rien lâché à la Cité de l'Accordéon malgré les doutes, malgré les risques et les contraintes. Nous n'avons pas baissé les bras afin d'éviter une seconde annulation des Nuits de Nacre. On a appris finalement assez récemment que les festivals pourraient avoir lieu. Laurent Valero, vous êtes le programmateur des Nuits de Nacre. Vous avez travaillé à la programmation de cette édition 2021 en faisant le pari de pouvoir organiser le festival ?
Oui, ça c'était nécessaire parce que bon, moi je suis le programmateur. Il faut savoir aussi qu'il y a des gens ici, je pense à Serge Bourdet et Kevin Combe, qui ont programmé la partie un peu locale des musiciens, parce qu'en Corrèze, il y a beaucoup d'accordéonistes, donc ils sont aussi présents dans le Festival des Nuits de Nacre, ils l'ont été, hein, c'est pas la première fois, mais c'est important qu'ils y soient, donc je partage aussi cet acte de programmation avec eux, et ils l'ont fait très très bien. Oui, on a fait le pari que le festival aurait lieu. Alors, évidemment, il fallait bien le faire, parce que, comme vous savez, un festival, ça s'improvise pas en une semaine, c'est un énorme travail. L'équipe de la Cité de l'Accordéon fait un travail absolument merveilleux, et je tiens, bah, puisque je suis le porte-parole de ça, je tiens à m'en faire l'écho et à saluer ce travail qui est vraiment remarquable, parce que c'est pas évident, derrière une annulation et dans la crise qu'on connaît, on a eu évidemment des questions de... Là, on n'a plus le couvre-feu, on vient de l'apprendre, il n'y a plus de couvre-feu, donc ça, même ça, qui est une bonne nouvelle, ça a quand même un peu perturbé les histoires d'horaire et tout ça, donc c'était pas évident, mais en même temps, on est parti bille en tête en se disant, faisons comme si le festival aura lieu, parce que sinon, on aurait décidé au mois de janvier qu'il n'y aurait pas de festival, pour la deuxième fois, ce qui est beaucoup. Mais c'est vrai qu'en janvier, on ne pouvait pas prévoir non plus que la crise sanitaire prendrait, que voilà, ça améliorerait. Donc voilà, c'est vrai que c'est un pari, vous avez raison, c'est un pari sur l'avenir. Bon, voilà, on est à tout près du but, là, on espère que le pari sera tenu, ça commence demain, et donc on est évidemment très, on a un peu le trac tous ensemble, là, les gens qui s'occupent aussi bien de l'artistique que de la technique, toute l'équipe de la Cité de l'Accordéon qui est vraiment une très belle équipe, très soudée, et moi le premier, j'ai le trac aussi, parce que voilà, j'ai l'accueil du public, comment le public va accueillir une programmation. Moi, c'est la première fois que je fais ce job, qui est un job absolument passionnant et un job de privilégié, parce que choisir des artistes qu'on aime pour les proposer au public, c'est quand même, bon, il y a pire comme travail dans la vie. Et moi, j'ai un peu le trac, j'avoue aussi. Mais ils ont tous le trac, là. On a le bon trac avant un événement important. Voilà.
Organiser un festival, c'est un travail gigantesque. S'atteler à la programmation d'un festival, c'est un véritable casse-tête déjà en temps normal. Comment la crise sanitaire a compliqué votre programmation ? Avez-vous eu des arbitrages ou des choix difficiles à faire ?
Non, sur la programmation artistique, non. Sur le choix des artistes, pas du tout. Par contre, c'est l'équipe qui a les mains dans le cambouis de l'organisation d'un festival, qui est effectivement une machine complexe, parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer sur plein de plans, des plans logistiques, de la ville, de sécurité, de restauration. Tout ça, c'est des questions très compliquées. Ici, à Tel, avec un acharnement et un brio total, c'est des questions, moi, évidemment, les questions de restauration, c'est pas moi qui m'en occupe directement, mais tout ça est très important, parce qu'on a beau programmer des bons artistes et des beaux concerts, si derrière ça suit pas, ça fera pas un bon festival. Donc, le festival, c'est vraiment quelque chose de très collectif, et on a besoin de talents de tout le monde pour que ce soit réussi. Mais dès qu'on a une concentration de monde, les consignes sanitaires restent les mêmes, donc ça alourdit un peu, effectivement, l'organisation de concerts. Mais je pense que, bon, d'abord, les gens, le public, je veux dire, a intégré tout ça assez bien. Et le public a aussi très envie de retourner voir des spectacles. Donc, moi, par ailleurs, qui suis, pas dans le cadre de Tulle, mais qui suis musicien, je sais ça aussi. C'est-à-dire qu'on a tous une envie partagée de. Et même avec ces contraintes, la joie de retrouver la scène pour le public et pour les artistes est énorme, quoi. Donc. On sent, voilà, mais c'est vrai que c'est compliqué, ça complique les choses, c'est vrai.
Alors j'ai une question à la fois simple et compliquée à vous poser, Laurent Valero, vous êtes le programmateur des Nuits de Nacre. Est-ce que vous pouvez définir l'esprit de la programmation de cette édition 2021 en quelques mots ?
Oui, c'est compliqué, alors je vais essayer de, voilà, c'est un nouveau souffle, alors ça ne veut pas dire qu'on fait table rase de ce qui s'est passé, 33 ans d'édition des Nuits de Nacre. Je pense à moi, j'y suis venu, j'ai souvent dit ça un peu, j'y suis venu comme spectateur en 90-91, donc à l'époque c'était Richard Galliano qui était le programmateur, il n'y a pas si longtemps que ça, Sébastien Farge aussi qui a un accordéoniste magnifique, donc c'est, voilà, moi je suis aussi musicien comme Galliano et comme Sébastien Farge, j'ai pas connu toutes les équipes qui se sont succédées, alors comme musicien, programmer des musiciens, ben oui, c'est compliqué et c'est simple à la fois. C'est compliqué et simple à la fois. Moi, je dirais que mon travail est simple parce que c'est faire partager des coups de cœur pour des artistes qui méritent de rencontrer le public. Moi, je pense, quand je programme, je pense avant tout au public. C'est mon obsession, enfin, ce qui est normal. Je pense pas, je vois pas à qui je penserais d'autre puisque c'est à destination du public. Et j'inscris ça dans une démarche d'éducation populaire parce que la musique, c'est de la culture et la culture, c'est de la connaissance. Donc, le public a droit à la culture et à la connaissance, et la musique fait partie de ça. Donc moi, c'est pas difficile dans la mesure où programmer des choses de qualité, pour moi, c'est un peu l'axe sur lequel je travaille, mais voilà, ce qui est de la qualité pour moi, peut-être que d'autres détestent, mais ça, je m'attends aussi à ce qu'on me dise non, c'est pas bien, c'est pas grave. Je dirais pas non plus il en faut pour tous les goûts, moi je pense qu'il faut de la qualité tout le temps. Après, il en faut pour tous les goûts, bien sûr, parce que voilà, des gens qui aiment Perles de Cristal, c'est pas forcément des gens qui aiment l'accordéon contemporain, mais je sais très bien qu'on peut pas forcément réconcilier tous les publics, mais on peut. Moi, je pense que le travail de programmation, c'est un travail culturel, c'est de l'action culturelle, c'est de l'éducation populaire, et que le public, c'est comme tout le monde, c'est comme un enfant, ça c'est du qu'un public. Un public, on lui fait découvrir des choses. Un enfant, il apprend sa langue, il apprend en parlant, en travaillant, enfin, en regardant autour de lui, il apprend en écoutant. Mais un public, c'est pareil. Un public qui peut aimer des choses qu'il ne savait pas qu'il aimerait. Et moi, je travaille plutôt comme ça, plutôt que de donner au public que ce que je prétends qu'il aime et que ce qu'il connaît déjà très bien. Donc, c'est vrai que on m'a dit dans une autre émission, il n'y a pas de tête d'affiche. Non, effectivement, parce que des têtes d'affiche à l'accordéon, voilà, il y en a quelques-uns, ils sont très connus, mais je considère qu'il y a des têtes d'affiche parce que ce sont des spectacles de très haut niveau et de très grande qualité. Pour moi, c'est ça, être une tête d'affiche. C'est pas forcément celui qui passe tous les jours sur Inter ou à la télévision. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens dans ce festival qui ne passent pas beaucoup en radio, qui ne passent jamais à la télévision. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'ils sont dans les festivals, mais c'est des gens qui ont c'est des artistes qui ont un public. Donc voilà, enfin là j'ai répondu un peu en vrac à tout ça, mais c'est voilà, c'est à la fois compliqué et à la fois simple, parce que si on cherche à donner au public des choses de grande qualité, c'est pas compliqué. Après c'est compliqué que voilà, que le public soit au rendez-vous, mais j'ai à cœur de faire découvrir des choses au public plutôt que lui donner ce qu'il connaît par cœur. Je ne suis pas là pour faire connaître des gens connus. Les gens connus sont déjà connus. Après, si on peut découvrir, j'ai discuté tout à l'heure, je suis à Tulle, à la cité de l'accordéon, en plein centre, à côté de la cathédrale. Je discutais avec un couple, ils ont à peu près, je pense, entre 75 et 80. Je leur disais, il y a Michèle Bernard qui va passer à Tulle, qui est une chanteuse merveilleuse, très sous-estimée et très peu connue compte tenu de son talent. Ils ne la connaissaient pas. Mais de la même manière qu'un jeune mec de 25 ans à qui je parlais aussi ne la connaissait pas. Donc, quand des gens de 25 ans ne connaissent pas, pareil que des gens de 75, on se dit qu'il y a un problème. Mais par contre, moi, le programmateur, ça me donne une sacrée envie de leur dire « Venez la découvrir, Michèle Bernard, parce que vous allez voir quelqu'un d'extraordinaire et de quelqu'un dont je vous garantis qu'elle va vous bouleverser quand vous la voyez. Vous ne la connaissez pas, ce n'est pas grave. Tentez l'expérience. » Mais c'est comme la musique contemporaine. Des gens disent « je déteste ça ». Non, en fait, souvent, ils ne connaissent pas. Et souvent, avec l'accordéon, ça, c'est aussi un discours que j'entends, mais que j'ai toujours entendu. « J'aime pas l'accordéon ». Mais de quel accordéon on parle ? Est-ce qu'on parle d'un magnifique accordéon russe ou de musique classique à l'accordéon ? Ou on parle de choses un peu vulgaires qu'on a beaucoup entendues certaines années et qu'on n'a plus envie d'entendre ? Donc, voilà. Mais il y a du violon très vulgaire aussi. André Rieu, moi, je n'aime pas. Je trouve ça un peu, c'est popu, c'est machin. Si j'étais à la tête d'un grand festival, je ne programmerais pas André Rieu et son orchestre parce que je préférerais proposer des choses, des choses plus intéressantes. Et c'est du violon, ce n'est pas de l'accordéon. Donc, la vulgarité, on l'a dans tout, même dans le piano.
Ah oui, la vulgarité est partout.
Oui, c'est ça. On peut faire un festival de piano et programmer des gens qui jouent du piano merdique, mais ce n'est pas lié à l'instrument. L'instrument, en plus, l'accordéon. L'accordéon est un instrument très complexe et c'est tout le contraire du piano du pauvre. C'est tout le contraire. C'est presque plus complexe qu'un piano. Les gens ont un rapport un peu passionnel avec l'accordéon parce qu'ils aiment dire qu'ils détestent l'accordéon. Souvent, et moi, j'ai plein de gens qui me disent « Ah oui, j'ai détesté l'accordéon. » Puis j'ai écouté un jour Marcel Azola. J'ai écouté un jour Richard Galliano. Et, ah ben ouais, oui, forcément. Alors maintenant, il y a des jeunes qu'on voit à la télé, même. Il y a des Vincent Perani, il y a des Lionel Suarez. Et c'est vrai que quand les gens écoutent Lionel Suarez ou Vincent Perani ou Richard Galliano ou David Venitucci qui sera présent au festival de Nuit de Nacre, c'est très difficile de vous dire qu'ils n'aiment pas l'accordéon. En réalité, ce sont de tellement grands musiciens que la question de l'instrument ne se pose même plus. Parce qu'on a d'abord affaire à des grands musiciens. Et les Nuits de Nacre, depuis leur création, je ne sais pas du tout depuis ma programmation, c'est que depuis, on voyage. Moi, je me rappelle avoir écouté Sivuca, qui est mort maintenant, qui était un très, très grand maître brésilien de l'accordéon, du forró, la musique du nord-est du Brésil, que j'ai écouté ici. C'est la première fois que je l'ai entendu, la dernière, et j'ai un souvenir à Tulle, aux Nuits de Nacre, d'avoir pu avoir le privilège de découvrir ce grand musicien. Et c'était des gens, alors moi j'étais pas là, j'ai des gens, je pense, qui ont vu Astor Piazzolla lui-même jouer ici deux fois dans cette ville. Donc c'est quand même, voilà, c'est à ça que ça sert un festival.
vous avez anticipé ma question sur la soirée hommage à Astor Piazzolla. Ce sera ce samedi.
C'est en fait les 100 ans. Astor Piazzolla était né en 1921. Il nous a quittés assez tôt, en 1992. Astor Piazzolla, je le disais, c'était un des compositeurs les plus connus au monde et les plus joués. Et ce qui est assez étonnant, c'est que c'est un compositeur qui, lui, vient du tango, on le sait. C'était ce qu'on appelle un grand tanguero qui a beaucoup joué dans les boîtes à 3h jusqu'à 5h du matin à Buenos Aires et qui est maintenant un des compositeurs les plus joués par les musiciens classiques et les plus grands. Donc ça, c'est drôle parce que tout l'argent que génèrent quasiment ces compositions le sont essentiellement par des formations classiques dans le monde. Donc ça, c'est très étonnant de la part d'un musicien qui jouait dans les cabarets et qui a joué pendant toute une partie de sa vie jusqu'à 5h du matin pour que les gens dansent. Mais Astor Piazzolla, évidemment, c'est un des compos. Il est passé deux fois à Tulle, ce qui est quand même extraordinaire. Les gens qui ont cette chance de le voir, moi, je n'ai pas eu cette chance. Et il a joué au cloître et il a joué au Nunnak, invité par Richard Galliano, qui était son ami, qu'il a bien connu. Mais voilà, oui, ça sera une belle soirée avec des jeunes musiciens, beaucoup de jeunes musiciens. Bon, je parlais d'Yves Bettelmann, qui lui n'est pas un jeune musicien, mais était un grand pédagogue et un grand pianiste, qui a fondé ce trio avec Juan José Mosalini et Patrice Caratini, qui était leur trio, qui était un trio qui est devenu une sorte d'exemple pour toute une génération de jeunes musiciens de tango en Argentine, alors qu'ils ont fait que 3 disques. Il y aura l'ensemble, le projet qui s'appelle Octetology, qui est un très très beau projet de jeunes musiciens qui jouent, mais absolument merveilleusement, dans une espèce d'orchestre d'octuor, tel que Piazzolla l'avait fondé dans les années 50 à Buenos Aires. Et en fait, ils jouent les arrangements de Piazzolla. Et c'est très brillant comme arrangement. Et il y aura aussi Louise Jalut. Louise Jalut, c'est une jeune bandoneoniste française dont on parle un peu. Alors, elle qui a un peu les honneurs de... Voilà, une fois n'est pas coutume. Et elle a un peu les honneurs de Télérama, de France Inter, un peu de la télé, ce qui n'est pas plus mal. Mais c'est une jeune bandoneoniste qui est un peu tombée dans la marmite, qui a appris le bandoneon à l'âge de 5 ans et qui rend un hommage à Piazzolla aussi très, très beau. Et il y aura aussi, qu'on aura entendu la veille, avec en première partie de Michel Bernard, David Venitucci, très très grand accordéoniste, et Annick Cisari, qui vont chanter des chansons d'Astor Piazzolla en français, de Pierre Philippe et de Georges Moustaki, et qui vont se joindre à Gustavo Bettelmann, le pianiste, pour chanter des chansons de Jean Guidoni et Pierre Philippe, que Piazzolla avait composées pour eux. Donc là, je suis très content de ça, parce que c'est des choses assez inédites, des chansons qu'on... des chansons en français pour lesquelles Piazzolla avait fait la musique et qui sont des choses qui ne sont jamais reprises, alors que la musique est de Piazzolla quand même. Donc ça, je suis assez content et fier de ça. Et ce sera une assez belle soirée qui se terminera avec le groupe Times Box qui viendra interpréter Libertango à la fin. Libertango, cette composition archi connue de Piazzolla. Donc ils vont jouer ça à la fin en espérant que ça se termine un peu en bœuf sur la scène. Voilà, mais ça devrait être très festif. C'est une belle soirée.
Ça a tous les ingrédients pour être une belle soirée. Oui. Les Nuits de Nacre, ce sont des concerts sur scène, mais c'est aussi un festival qui s'étend dans toute la ville et qui propose ici et là, au coin d'une rue, un artiste qui joue pour le public, qui passe, le public qui déambule. Cette année, ces artistes seront installés sur des voitures vintage, de vieilles voitures. C'est-à-dire, ça va ressembler à quoi? Comment on allie un musicien à une voiture vintage?
Oh, ben ça, c'est un peu pour le plaisir des yeux et des oreilles, qu'on va dire. Ça, c'est Serge Bourdet qui s'est occupé de ça. C'est des déambulations, voilà, qui vont aligner des voitures qu'on a plaisir à regarder et dans lesquelles des musiciens vont jouer. Alors, voilà, ils vont déambuler de plus ou moins vite en s'attardant pas forcément. Ils vont comme ça pouvoir régaler un peu l'ensemble de la ville. Il y en a plusieurs qui sont prévus. Ça, alors, j'avoue que j'ai moins l'expérience de ça parce que ça, c'est la partie dont je vous parlais qui était assurée par des gens plutôt locaux, avec des musiciens plutôt locaux, mais ça va être super, et ça, c'est effectivement d'animer la ville, sachant que compte tenu de la crise sanitaire, par exemple, on n'a pas pu organiser les parquets de balles, comme ça se faisait toujours à Tulle, au Nuit de Nacre, ce qui était des moments, moi je m'en souviens, je les ai vus, c'était extraordinaire de voir des balles trades, avec des accords non diatoniques, des gens qui dansent, des scottish, des bourrées, de la musique de musette, évidemment, des valses. Bon, ça, on n'a pas pu avoir parce que la crise sanitaire est passée par là. Donc, on va se rattraper sur les déambulations et les animations qui auront lieu au centre-ville. Mais ce sera, voilà, ça, c'est un petit peu quelque chose qui est un peu moindre par rapport aux autres propositions. Mais ça, c'est voilà, on n'a pas pu organiser les parquets et les bals tels qu'ils ont toujours eu lieu et que c'est une vraie tradition dans ce festival. C'est un peu dommage, mais bon, on espère qu'on pourra le faire l'année prochaine.
Laurent Valero, je rappelle que vous êtes programmateur des Nuits de Nacre, et les Nuits de Nacre cette année, c'est ce week-end, du vendredi 25 juin au dimanche 27 juin à Tulle, évidemment. J'ai deux citations à vous proposer, deux citations autour de l'accordéon. Une d'André Verschuren, accordéoniste français et peut-être Calogero de l'accordéon, ça c'est à voir. Ou une citation d'Ambrose Bierce, écrivain et journaliste américain, tirée de son fameux Dictionnaire du Diable. Laquelle choisissez-vous ?
Oh, j'ai plutôt envie d'écouter celle d'Ambrose Bierce, pourquoi pas.
J'étais sûr que vous choisiriez Ambrose Bierce. Ambrose Bierce disait donc dans son Dictionnaire du Diable, je cite, « Accordéon, instrument en harmonie avec les sentiments d'un assassin ».
Ah oui, c'est joli. C'est joli, oui. Alors, je ne sais pas à quoi il fait allusion, au côté un peu canaille de l'accordéon, au côté populaire de l'accordéon. Alors, assassin, oui. Mais là, c'est intéressant d'entendre les surnoms aussi de l'accordéon. On appelle ça la boîte à punaises, la boîte à frissons. Ça, moi, j'ai une définition que j'aime beaucoup, un surnom que j'aime beaucoup de l'accordéon, la boîte à frissons. Il y a plein d'expressions comme ça à coller à cet instrument. Le piano du pauvre. Je pense au piano du pauvre parce que Ferré parlait du piano du pauvre. Il y a Alain Leprest qui a travaillé avec Richard Galliano, qui a fait un très beau disque avec lui, parler du piano du riche dans une de ses chansons. Oui, tout à fait. L'accordéon a... Moi, ce que je retiens de l'accordéon, c'est un instrument que j'aime particulièrement, n'étant pas moi-même accordéoniste, c'est que c'est un instrument qui est lié, pour moi, à la joie et à la fête. Et c'est un instrument qui peut... Voilà, c'est un instrument d'extérieur, c'est un instrument du voyage, c'est un instrument de l'émotion, je dirais. Alors, assassin, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est peut-être une figure un peu littéraire comme ça. C'est un instrument, ouais, lié à l'émotion. Je crois que l'accordéon, c'est beaucoup d'émotion, puis ça peut donner des fourmis aux gens parce que l'accordéon est aussi très lié à la danse. Et ça, voilà. Alors, cette année, on n'en aura pas, malheureusement. Mais j'ai. Alors, bon, il faut que le festival, la 33e édition, se passe, et je pense qu'elle va se passer bien, j'espère. Mais l'année prochaine, j'aimerais bien avoir des gens qui jouent de l'accordéon et qui font danser avec des musiques très, très, voilà, très enthousiasmantes, peut-être moins, voilà, des choses venues d'Espagne, Portugal, des choses qu'on a moins l'habitude d'entendre en France. Il y a de très, très grands accordéonistes en Espagne, au Portugal, aux États-Unis, au Canada. Enfin, l'accordéon est pour moi beaucoup lié à ça, la danse et l'émotion. La chanson, bien sûr, c'est une tradition en France considérable. Et puis, parce que le musette qu'on dit tellement français, j'en parlais tout à l'heure, c'est très métèque, c'est très métisse, et c'est aussi lié à la danse. Le musette, c'est fait pour danser aussi. Mais il y avait des chansons. Donc, l'accordéon, c'est ce que je disais un peu en début d'entretien, c'est que l'accordéon, ça brasse une quantité de paysages sonores et de paysages musicaux. Il y a de l'accordéon dans la musique du Soudan, il y a de l'accordéon dans la musique maghrébine, il y a de l'accordéon dans la musique, on sait, de la musique juive d'Europe de l'Est. Il y a de l'accordéon dans le nord des États-Unis, il y a de l'accordéon en Louisiane, il y a de l'accordéon, en fait, il y a de l'accordéon partout, en Afrique du Sud, il y a de l'accordéon en Asie, il y a de l'accordéon en Chine. C'est un instrument assez universel. Alors évidemment, en trois jours, on n'a pas les moyens de montrer tout ça, parce que ça demanderait un festival qui dure un mois. Mais ce festival, on aura, c'est ça, j'en suis assez content, une vraie diversité aussi des instruments. Des divers instruments de la famille de l'accordéon.
J'ai une question très terre à terre. L'édition 2021 des Nuits de Nacre va devoir composer avec un invité envahissant, le Covid-19. Alors concrètement, comment le public des Nuits de Nacre pourra s'accommoder cette année de cet invité indésirable ?
Alors, deux choses, c'est-à-dire, on en a un petit peu parlé déjà, il y a des jauges qu'on va respecter scrupuleusement. Les concerts... Évidemment, en intérieur au théâtre, sont assis, mais en extérieur aussi, ce qui permet de respecter les distances sociales entre les gens. Et puis, l'autre chose qui est plutôt là bien par rapport au Covid-19, c'est qu'il ne sera pas nécessaire d'avoir un pass sanitaire. Donc, ça, c'est quand même pas mal parce que ça veut dire qu'en respectant les gestes barrières, comme on dit, le lavage des mains et respect des distances, on n'aura pas besoin de présenter un test sanitaire avec un QR code. Donc, ça veut dire que les gens qui ne sont pas forcément tous vaccinés pourront quand même venir. Alors, ça, c'est bien. Mais ça suppose qu'on veille scrupuleusement au respect des gestes barrières. Mais je sais aussi que dans d'autres festivals comme Bourges, par exemple, Printemps de Bourges, pareil, ils ont réuni leurs... Alors, ils ont évidemment l'habitude de scènes beaucoup plus grosses et tout ça, mais ils ont fait des scènes plus petites. C'est réuni de Fourvière à Lyon, qui est un immense festival. Alors, nous, on n'est pas un aussi grand festival, mais c'est plus facile parce que nous, on a des jauges de public moins grandes. Au théâtre, je sais que c'est à peu près la moitié. C'est un peu un crève-cœur parce que ça marche très bien, les locations se passent très bien. Mais c'est vrai qu'avec les jauges, on risque d'être complet. Mais en même temps, on en est content.
Cet entretien a commencé avec une citation de Jean-Bernard Servière, le président de la Cité de l'Accordéon. Je vous propose de conclure cet entretien en vous proposant une seconde citation. Toujours dans son édito, il parle de, ouvrez les guillemets, revivre la folie de ces soirées de fête, même si nous devrons encore probablement nous contenter d'une folie raisonnée. Vous l'avez expliqué, pas de bal musette cette année, un festival resserré sur ses fondamentaux, mais un festival quand même.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un peu ce que je disais aussi. C'est-à-dire que je crois que ces contraintes auxquelles tout le monde pense et qu'on a bien en tête et qu'on a bien dans la pratique aussi maintenant, parce qu'on est habitué depuis plus d'un an qu'on est dans la crise sanitaire, sont peu de choses par rapport au plaisir que les gens vont retrouver, vont avoir, je l'espère, mais j'en suis sûr, à retrouver le chemin des salles de spectacle et que je peux vous dire moi-même en tant que musicien, le plaisir que les musiciens ont de se retrouver devant un public. Parce que, mine de rien, je ne veux pas terminer sur une note grave, mais c'était cette privation de scène et d'art et de spectacle et de culture, en tout cas dans le monde du spectacle vivant, qui est le nôtre, a été quand même difficile pour beaucoup de gens. Ça a été difficilement vécu. Et le public, je crois que le public a soif de culture, de connaissances, de découvertes. En tout cas, c'est là-dessus qu'il faut tabler. Et je pense que ça va être de belles retrouvailles.
Laurent Valero, je rappelle que vous êtes programmateur des Nuits de Nacre. Cette année, les Nuits de Nacre, c'est ce week-end, du vendredi 25 juin au dimanche 27 juin. C'est à Tulle, évidemment. Et si on pense ne pas aimer l'accordéon, il faut se rendre aux Nuits de Nacre pour se rendre compte qu'on a tort. Merci à vous.
Merci à vous, un grand merci.